La deuxième lecture au Sénat de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement, dite proposition de loi Gaillot, s'est déroulée mercredi 19 janvier en à peine 3 heures de discussion. Ce débat, qui s'est inscrit dans une actualité française et européenne tout à fait particulière, s'est achevé par l'adoption d'une question préalable permettant le rejet en bloc du texte avec 202 voix contre 138. Face à Mélanie Vogel, EELV, pour qui l'avortement n'est jamais un problème mais une solution, Alain Milon-Aller a rappelé que plus une IVG est tardive, plus elle est dangereuse physiquement et psychologiquement pour les patientes, comme l'avait souligné le gynécologue Israël Nizan, qu'on ne peut soupçonner d'être anti-avortement. C'est pourquoi il conclut « C'est un bon coup politique, mais un mauvais coup pour les femmes ». Aux États-Unis, la Cour suprême a rejeté le jeudi 21 janvier 2022 le recours des opposants à la loi du Texas sur l'avortement. Cette loi, entrée en vigueur le 1er septembre dernier, interdit les avortements dès que les battements du cœur de l'embryon sont perceptibles à environ 6 semaines de grossesse. Dans cette décision, la Haute Cour a refusé une nouvelle fois de renvoyer cette affaire devant un juge fédéral. Ce dernier avait déjà tenté de bloquer la loi. Le dossier sera donc examiné comme prévu par la Cour fédérale d'appel de la Nouvelle-Orléans. La Cour suprême examine aussi actuellement un dossier concernant la loi sur l'avortement au Mississippi. Lors de l'audience, certains juges semblaient prêts à annuler l'arrêt Roe contre Wade. Une telle décision autoriserait les États à raccourcir les délais pour avorter. Une nouvelle approche du séquençage ultra-rapide du génome, développée par l'université de Stanford, a été utilisée pour diagnostiquer des maladies génétiques rares en 8 heures en moyenne. Pour l'un des patients, 5 heures et 2 minutes ont suffi, un record inscrit au Guinness Book. Quelques semaines, c'est ce que la plupart des cliniciens appellent rapide lorsqu'il s'agit de séquencer le génome d'un patient et de renvoyer les résultats, explique Ewan Ashley, le professeur à l'université de Stanford qui a mené les travaux. Le séquençage du génome permet de voir la composition complète de l'ADN d'un patient. Pour ceux atteints d'une maladie génétique, le séquençage permet de connaître la mutation en cause et d'adapter les traitements en conséquence. Les chercheurs ont ainsi recruté et séquencé le génome de 12 patients. Avec le séquençage ultra rapide, le taux de diagnostic s'est élevé à 42%, supérieur de 12% à la moyenne actuelle. L'équipe ne compte pas s'arrêter là et optimise son système pour réduire encore les délais. « Je pense que nous pouvons encore les réduire de moitié », a déclaré Ewan Ashley. La mère porteuse la plus prolifique de Grande-Bretagne a accidentellement donné son propre enfant, Carol Orlock, a porté et donné 13 bébés conçus par gestation par autrui, avant d'arrêter son activité en 2012 à l'âge de 49 ans. En juin 2004, elle donne naissance à un garçon qu'elle croit issu d'un de ses ovocytes et du sperme de son client. Mais 6 semaines après la naissance, le couple commanditaire fait pratiquer un test ADN et découvre que le bébé est en fait le fils de Carol et de son mari Paul. Carol et Paul ayant convenu de ne pas avoir d'enfant, tous deux engagés dans un second mariage, ils acceptent que leur fils soit tout de même adopté par le couple commanditaire, une décision angoissante, affirme-t-il. « Les gens m'ont demandé comment je pouvais donner ce bébé alors qu'il était le mien », raconte Carole. « Mais la plupart des bébés conçus dans le cadre d'une GPA que j'ai donnée étaient les miens biologiquement. La différence, c'est qu'il était aussi celui de Paul. Nous n'avons jamais cessé de penser à lui », témoigne-t-elle. « Nous vivons dans l'espoir qu'il est conscient de notre existence et que lorsqu'il aura 18 ans, il voudra nous voir ». Après être restés en contact avec le couple commanditaire pendant quelques années, ils ont fini par se perdre de vue. Pourtant, Carole explique être en contact avec presque tous ses bébés de substitution, mais pas avec lui. Son mari Paul ayant développé un problème cardiaque, elle affirme que cela lui briserait le cœur s'il ne rencontrait jamais son fils. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres actualités bioéthiques.